tu n'avais pas besoin, n'avais pas besoin, n'avais pas besoin de la préfecture.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, nous allons écouter une séquence inédite qui nous a été préparée par les élèves de CE2 de l'école Maurice Torres B avec leur maîtresse Jade. Et c'est une petite surprise qu'ils ont faite quand ils sont venus visiter le studio. Ensuite, nous réécouterons des rediffusions. Marie-Amélie Le Fur, qui avait été interviewée quelques années après ses médailles olympiques à Londres. Puis, une autre visite de studio. Et enfin, la rediffusion de deux moments d'interview avec Tania de Montaigne et l'avocate Danielle Merian. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Annie.
Bonjour, je m'appelle Maïssa.
Bonjour, je m'appelle Sofiane.
Bonjour, je m'appelle Timéo.
Bonjour, je m'appelle Iliès.
Bonjour, je m'appelle Ethan.
Bonjour, je m'appelle Ticharan.
Mille millions de mille sabots.
Bachi Bouzou.
Bourge de faux jetons à la sauce tartare.
Colo quinte. À la graisse de hérisson.
Espèce de mérinos mal peigné.
Ectoplasme à roulette.
Zouave interplanétaire.
Je m'appelle Asie.
Je m'appelle Louise.
Je m'appelle Thomas.
Bonjour, je m'appelle Arif.
Bonjour, je m'appelle Chessie.
Bonjour, je m'appelle Prada.
Bonjour, je m'appelle Alassane.
Bonjour, je m'appelle Julina.
Je m'appelle Iliane.
Je m'appelle Axel.
Bonjour, je m'appelle Joachim.
Espèce de porc-épic mal embouché.
Poupée.
Bougre d'extrait de crétin des Alpes.
Attaquons de Zoulou.
Maintenant, je vais vous traiter de loup-garou à la graisse de renoncule.
Bayadère de carnaval.
Zoua à la noix de coco.
Marche sur ta
vie. Hurlu-berlu.
Sombre rictérope.
Et moi, je vais dire amiral de bateau lavoir.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour à tous les auditeurs.
Nous sommes la classe de CE1A
de l'école Maurice Thorez A.
Notre maîtresse s'appelle Aurélie.
Aujourd'hui, nous allons présenter Marie-Amélie Le Fur.
C'est une championne olympique
qui est venue nous rencontrer à l'école.
Elle a participé aux Jeux paralympiques à Londres en 2012.
Ce sont les Jeux olympiques pour les personnes handicapées.
Nous allons maintenant commencer l'interview.
Donc bonjour à tous les auditeurs, Marie-Amélie Le Fur, et comme les enfants l'ont dit, je suis championne paralympique du 100 mètres à Londres en 2012.
Combien avez-vous gagné de médailles et dans quelle discipline ?
Donc au niveau international, j'ai gagné 10 médailles. Donc pour celle des championnats du monde, j'ai gagné 3 médailles d'argent, 2 médailles d'or. Et pour les Jeux paralympiques, 3 médailles d'argent, 1 de bronze, 1 d'or. Et à chaque fois, les disciplines, c'est 100 mètres, 200 mètres et saut en longueur.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être championne olympique ?
Alors le titre paralympique, c'est une belle récompense, c'est une grande joie, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai préparé depuis de nombreuses années. Ça a été beaucoup d'heures de travail, de sacrifice, à la fois de ma part, mais aussi de tous les gens qui m'entourent, que ce soit mes amis, mes parents, mon coach. Donc voilà, c'était une grande joie de gagner ce titre à Londres et toutes les autres médailles. Mais il y a encore du travail à fournir pour progresser pour les prochaines années.
À quel âge êtes-vous devenue championne olympique ?
Donc le jour de mon titre paralympique, j'avais 23 ans.
Quel est votre handicap ?
Donc j'ai été amputée d'une jambe sous le genou à la suite d'un accident de scooter il y a 9 ans maintenant. Donc je suis amputée tibiale.
Est-ce qu'avant d'avoir une prothèse, vous faisiez de l'athlétisme ?
J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans, donc j'en ai fait pendant 10 ans en tant que valide avant d'avoir mon accident, et c'est pour ça que c'est le sport que j'ai souhaité reprendre derrière mon accident, derrière mon handicap.
Comment faites-vous pour courir avec votre prothèse ?
Donc apprendre à courir avec une prothèse, bah comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, ça a demandé pas mal d'années de travail, travail de l'équilibre, travail de retrouver la vitesse, travail de bien savoir courir. Donc c'est une question d'entraînement, d'aller tous les jours sur le stade pour apprendre ces nouveaux gestes autour de l'athlétisme.
Combien avez-vous de prothèses différentes ?
J'ai quasiment une dizaine de prothèses différentes les unes des autres. Rapidement, j'ai deux prothèses pour la vie de tous les jours, dont une qui a un bouton dans le pied pour me permettre de mettre des chaussures à talons. J'ai plusieurs prothèses d'athlétisme qui vont varier en termes de hauteur et de rigidité pour faire les différentes disciplines. Après, j'ai une prothèse de ski qui possède un amortisseur de vélo dans le pied et un cuissard qui remonte sur la cuisse. Et aussi des prothèses qui vont dans l'eau parce que les prothèses de la vie de tous les jours ne sont pas faites pour aller dans l'eau. Donc, on utilise des prothèses spécifiques pour la plage et pour la natation.
Pourquoi êtes-vous tombée à la fin de la finale du 100 mètres ?
Alors, je suis tombée à la fin du 100 mètres tout simplement parce que je voulais la médaille d'or très, très, très fort et tellement fort que je me suis beaucoup, beaucoup penchée en avant. Parce qu'en fait, en athlétisme, ce qui compte, c'est d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée avec les épaules. Donc, bah, pour avoir les épaules en avant, on se penche en avant. Sauf que moi, avec la vitesse, je me suis trop penchée, ce qui fait que je suis tombée sur l'arrivée du 100 mètres parce que je voulais vraiment avoir une médaille d'or et pas une autre médaille.
Est-ce qu'il y a des choses dans la vie que vous n'arrivez pas à faire ?
Alors là, tout de suite, je vois rien de particulier que je ne pourrais pas faire du tout, à part occuper certains métiers, et notamment celui que je voulais faire quand j'avais à peu près votre âge, qui était d'être sapeur-pompier. Après, il y a des choses que je vais faire différemment ou en adaptant avec mon handicap. Parce que voilà, des fois, la prothèse peut un peu gêner, ça va changer quelques gestes du quotidien. Mais des choses qu'on ne peut pas faire du tout, il y en a quand même très très peu. Le tout, c'est de savoir s'adapter.
Comment était votre vie avant d'être amputée ?
Avant d'être amputée, j'avais une vie, on va dire, plutôt simple, enfin classique. C'est que j'étais à l'école, donc j'étais en seconde, la première année du lycée. Je faisais déjà beaucoup de sport, parce que je pratiquais déjà l'athlétisme à un niveau plutôt correct. Et tous les mercredis et tous les samedis, j'occupais mon temps aux jeunes sapeurs-pompiers, donc les JSP, pour apprendre un petit peu ce que c'est le métier de sapeur-pompier, un peu l'école de vie, l'école des valeurs des pompiers, dans l'optique de devenir soit pompier professionnel, soit pompier volontaire.
Êtes-vous heureuse avec votre handicap ?
Alors je suis très heureuse malgré le handicap que je peux avoir, parce que je l'ai très bien accepté. Je me sens pas forcément différente de vous, parce que si on regarde au final, on est tous différents les uns des autres. Il y a des gens qui sont blonds, d'autres qui sont bruns, d'autres qui ont les yeux marrons, d'autres qui ont les yeux verts. Et pour moi, mon amputation, c'est qu'une différence parmi tant d'autres. Et ça m'a permis de faire de belles rencontres dans ma vie, de connaître de belles choses. Donc je préfère voir mon handicap comme une force plutôt que comme quelque chose qui aurait pu me rendre faible ou triste dans la vie.
Merci Marie-Amélie d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous pour cette matinée, pour tout ce que vous m'avez apporté, parce que même si c'est moi qui viens pour vous délivrer un message, je ressors toujours grandi et en ayant appris plein de choses de ces sollicitations et de ces rencontres avec vous. Donc merci pour tout.
Merci à vous. Le journal de la création.
Aujourd'hui, nous avons de la visite. Les grandes sections de maternelle
de l'école Gabriel Péri
viennent nous rendre une petite visite au studio. Le studio est dans notre école.
Donc nous, on le connaît assez bien.
Depuis le début de l'année, nous travaillons régulièrement avec Radio Cartable. Nous sommes les CM1A de l'école Maurice Thorez B.
Notre maîtresse est Nathalie Medeville.
Bonjour, je m'appelle Lina.
Hello, je m'appelle Jules.
Hola, je m'appelle Fenia.
On va donc répondre à toutes les questions que se posent
nos petits camarades de maternelle.
Et les voilà.
C'est parti pour la visite guidée.
On vient d'accueillir les maternelles et on les emmène dans le studio de Radio Cartable. On les trouve mignons, petits, un petit peu stressés, mais c'est bon.
C'est vous qui êtes stressés ou c'est eux ?
C'est eux. Nous.
C'est nous tous.
Nous tous, en fait. Bonjour, t'as quel âge ?
4 ans.
On va vous demander de ne pas toucher au...
table de mixage.
À la table de mixage, ici.
Radio Cartable.
Moi, je m'appelle Olivia.
Je m'appelle Amélia.
Bonjour, je m'appelle Moussa.
Bonjour, je m'appelle Ali.
Bonjour, je m'appelle Solalie.
Bonjour, je m'appelle Basile.
Bonjour, je m'appelle Kaïs.
Bonjour, je m'appelle Mehdi.
Bonjour, je m'appelle Phoenix.
Bonjour, je m'appelle Adam.
Analou.
Je m'appelle Mohamed.
Je m'appelle Vicky.
Lafette.
Kousma.
Charles Andreas.
Je m'appelle Mia.
Moi, je m'appelle Lisette.
Moi, je m'appelle Jessica.
Moi, je m'appelle Amber.
Moi, je m'appelle Laura.
Moi, je m'appelle Noran.
En grande section.
Il y a des moyens et des grands.
D'accord.
Gabriel Péri.
Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ?
Un micro.
Un micro.
1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez, les enfants ?
Oui.
Et est-ce que vous, vous entendez, vous, dans les micros? Ouais. Approchez-vous un petit peu des micros, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait au studio, d'après vous?
On enregistre.
Ouais, très bien.
Parce que c'est dans le studio, le papa, souvent, il nous enregistre à son micro. Et on nous met un casque sur les oreilles, et après, le casque, il va dans l'ordinateur. Le casque.
Ces micros, ben on va peut-être les tester. On va les essayer.
Oui.
Hein? Vous êtes d'accord?
Oui.
Alors attention.
Deux petits bonshommes s'en vont de bois chercher des pommes et puis des noix, des champignons et des marrons. Et puis ils rentrent à la maison.
Super, bravo. Celle-là. Non?
Est-ce que ça t'a plu?
Oui.
Est-ce que ça t'a plu?
Oui.
Est-ce que ça t'a plu?
Oui.
T'as bien aimé la visite?
Oui.
Au revoir.
Ça m'a plu, ça m'a encore.
Est-ce que t'as envie de revenir?
Oui.
Ça t'a plu?
Non!
Tu t'es bien amusée?
Oui.
T'as bien chanté?
Oui.
On les a trouvés trop mignons.
Ils sont tout petits, tout jolis.
Oui. Au revoir tout le monde.
Aujourd'hui, nous avons de la visite. Les grandes sections de maternelle
de l'école Gabriel Péri
viennent nous rendre une petite visite au studio.
Le studio est dans notre école. Donc nous, on le connaît assez bien.
Depuis le début de l'année, nous travaillons régulièrement avec Radio Cartable.
Nous sommes les CM1A de l'école Maurice Thorez B. Notre maîtresse est Nathalie Médeville.
Bonjour, je m'appelle Lina.
Hello, je m'appelle Jules.
Hola, je m'appelle Fenia.
On va donc répondre à toutes les questions
que se posent nos petits camarades de maternelle.
Et les voilà.
C'est parti pour la visite guidée.
On vient d'accueillir les maternelles et on les emmène dans le studio de Radio Cartable. On les trouve mignons, petits, un petit peu stressés, mais c'est bon.
C'est vous qui êtes stressés ou c'est eux?
C'est nous.
C'est nous tous. Nous tous,
en fait. Bonjour, t'as quel âge?
4 ans.
On va vous demander de ne pas toucher au...
table de mixage.
À la table de mixage ici.
Radio cartable.
Moi, je m'appelle Olivia.
Je m'appelle Amélia.
Bonjour, je m'appelle Moussa.
Bonjour, je m'appelle Ali.
Bonjour, je m'appelle Solalji.
Bonjour, je m'appelle Basile.
Bonjour, je m'appelle Kaïs.
Bonjour, je m'appelle Mehdi.
Bonjour, je m'appelle Phoenix.
Bonjour, je m'appelle Adam.
Analou.
Je m'appelle Mohamed.
Je m'appelle Vicky.
Dafet.
Kousma.
Charles-Andreas.
Je m'appelle Mia.
Moi, je m'appelle Lisette.
Moi, je m'appelle Jessica.
Moi, je m'appelle Ambre.
Moi, je m'appelle Laura.
Moi, je m'appelle Noran.
En grande section.
Il y a des moyens et des gros.
D'accord.
Gabriel Perry.
Est-ce que vous savez ce que c'est, ça?
Un micro.
1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez, les enfants?
Oui.
Est-ce que vous entendez, vous, dans les micros? Ouais, approchez-vous un petit peu des micros, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait au studio, d'après vous?
On enregistre.
Ouais, très bien.
Parce que dans le jeu de studio, le papa, souvent, il nous enregistre à son micro. Et on nous met un casque sur les oreilles, et après, le casque, il va dans l'ordinateur. Le casque.
Ces micros, ben on va peut-être les tester. On va les essayer.
Oui.
Hein? Vous êtes d'accord?
Oui.
Alors attention.
Deux petits bonshommes s'en vont de bois chercher des pommes et puis des noix, des champignons et des marrons. Et puis ils rentrent à la maison.
Super, bravo. Celle-là. Non?
On les a trouvés trop mignons.
Ils sont tout petits, tout jolis.
Oui.
Au revoir tout le monde.
Radio Cartable, c'est fini pour aujourd'hui. Nous laissons l'antenne à l'émission Bibliomanie avec Valère au micro et Florence.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Et tout de suite, ne bougez pas, retrouvez notre reportage exceptionnel
avec Tania de Montaigne et Daniel Merian.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Cartable.
Aujourd'hui, dans Radio Cartable, nous avons la chance,
l'honneur, le privilège
de recevoir deux invités mystères.
Mais qui ça peut bien être ?
Eh bien, il s'agit de Tania de Montaigne et Daniel Merian.
Tania de Montaigne est écrivaine et journaliste.
Et Daniel Merian est avocate à la retraite.
Souvenez-vous, Daniel Merian,
c'est cette super mamie
qui s'était exprimée au micro de PFM TV
au lendemain des attentats du 13 novembre. Elle a porté une rose devant le Bataclan et a délivré à ce moment-là
un message de paix et d'amour
au monde entier.
Bonjour Tania de Montaigne et Daniel Merian. Pourriez-vous vous présenter pour les auditeurs de Radio Cartable ?
Ah, nous présenter ? Mon Dieu, comment je vais me présenter ? Ah ben, je suis une vieille grand-mère, je suis un ancien avocat, je suis un écrivain grâce à Tania, et je suis surtout une militante des droits humains. Si je devais me réduire à quelque chose, je dirais militante des droits humains.
Bonjour, alors moi je m'appelle Tania de Montaigne et je suis écrivaine. Qu'est-ce que je peux, c'est pas mal déjà si je dis ça en fait, voilà, donc moi j'écris des romans et puis là c'est la première fois que je fais ce travail qui est de partager avec quelqu'un son parcours et d'essayer de rendre ça dans un livre que tout le monde puisse découvrir cette personne, et là en l'occurrence c'est Daniel.
Tania de Montaigne est-il votre véritable nom ou un nom d'emprunt ?
Ça c'est la question. Non, en fait, c'est mon véritable nom. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, souvent, on croit que ce n'est pas mon nom. Parce qu'il est quand même assez chic. Hein. Je dis ça sans me vanter, puisque je ne suis pas responsable de ce nom. Et en fait, je l'aime bien à plusieurs titres, ce nom. Je l'aime bien parce que quand on me voit souvent, on s'imagine qu'une Tania de Montaigne, ça doit avoir une autre tête. Souvent, je vois ça dans le regard des gens. Ils se disent, oh là là, mais dis donc, pas une tête de Tania de Montaigne. Je la voyais plus, peut-être plus blanche, peut-être plus blonde, peut-être... Voilà. Et ce qui est formidable dans ce pays, c'est que moi, toute noire que je suis aussi une de Montaigne, parce que l'histoire de notre pays fait que ça part sur quelque chose de pas très rigolo qui est l'esclavage, mais ça se termine aujourd'hui au 21e siècle avec un tel mélange des gens que maintenant c'est plus possible de dire si moi je suis une de Montaigne, si quelqu'un d'autre l'est. Et d'ailleurs une fois je me souviens d'avoir rencontré, j'allais à un match de foot, je suis au Stade de France. Et là, il y a un monsieur, mais blond, 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 le plus blond que vous puissiez imaginer, avec des yeux bleus, alors peut-être comme... oui, c'est possible, mais plus bleu encore que tes yeux à toi, et qui vient me voir et qui me dit, vous savez que moi, je suis un de Montaigne. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et donc, il sort de sa poche son portefeuille, et là, il me montre sa carte d'identité, et en fait... Eh bien, nous deux, nous représentions l'histoire et nous représentions quelque chose d'impossible. Si on remontait de 300 ans en arrière et vous racontiez cette histoire et vous disiez, vous savez, un jour, un blanc et une noire porteront le même nom et donc ils raconteront un peu une partie de l'histoire de la France, personne ne vous aurait cru. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'était possible qu'on soit tous les deux dans un stade de foot en train de regarder un match. Et ça, moi, j'aime bien ça.
Où êtes-vous né et où avez-vous grandi ?
Oui, alors je vous disais que je suis née dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, pour moi, c'est le jardin du Luxembourg. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est le plus beau jardin du monde. J'en ai connu de magnifiques en Italie ou en Chine. Mais comme je suis de mauvaise foi, je dirais jusqu'à la fin des temps que le plus beau, c'est le mien, le jardin du Luxembourg. Voilà.
Et moi, je suis née à Paris dans le 13e. que souvent on associe au quartier chinois. Alors voyez, comme quoi pas du tout. Il s'y passe plein de choses dans ce 13e. Et en fait, je l'ai quitté très vite parce que j'ai grandi en banlieue. Donc je ne suis retournée à Paris que quand j'ai fait mes études. Et du coup, là, c'est devenu vraiment ma ville. J'ai exploré toute cette ville. Voilà.
D'où vient le goût de l'écriture ?
J'ai eu la chance de naître dans une famille de lettrés. J'ai eu la chance de naître dans une famille où il y avait des bouquins dans toutes les pièces. J'ai été élevée par un père qui, après le dîner, nous lisait des auteurs, par exemple, pas tellement recommandables comme Courteline, que je sais à peu près par cœur, mais toujours des écrivains drôles comme Jérôme K. Jérôme, ou alors un écrivain comme René Aîné. Il adorait La Guerre du Feu. Et lui-même, il a été élevé par des parents qui étaient des écrivains. Ma grand-mère paternelle, elle a créé une troupe de théâtre. Et mon père, enfant, il a joué dans la troupe de sa mère et il connaissait tout Racine par cœur. Et quand j'avais votre âge et qu'il fallait faire des rédactions, mon père me disait « tu dois écrire comme Flaubert ». Alors je peux vous garantir que j'ai jamais écrit comme Flaubert, mais il m'a seriné toute mon enfance que mes rédacs, elles seraient bonnes si, et je ne l'oublierai jamais, j'écrivais et il me serinait la première phrase de Salammbô. La première phrase de Salammbô, c'est « c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar ». Et il me disait, quand tu pourras être aussi courte, aussi précise sur le lieu, sur l'histoire, et aussi chantante, enfin, tu commenceras à savoir écrire. Je me suis embêtée dans la vie jusqu'à ce que je sache lire. Mais alors, dès que j'ai su lire, parfois je ne faisais pas ce que demandaient les professeurs, ça ne faut pas écouter. Je lisais la bibliothèque de mes parents. Voilà.
Alors moi, ce serait presque l'inverse, si on va dire. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille où la relation à l'écriture, c'est pas nécessairement ça. Et comme j'ai grandi dans une cité, on n'a pas une idée très précise de ce que c'est qu'un écrivain. On se dit d'ailleurs qu'ils n'existent pas et qu'un écrivain, bon, je sais pas, c'est une personne morte. On ne se dit pas qu'il y a des écrivains vivants qui écrivent des trucs. On n'y pense pas. Et j'ai commencé à me dire que j'allais devenir écrivain parce que j'ai commencé à lire des livres. Je me suis dit, non mais il y a des gens qui font des trucs juste avec un stylo et un papier. Ils peuvent inventer des mondes. Et il y a un truc qui était formidable et qui l'est toujours, c'est la bibliothèque. Parce que on peut rentrer là-dedans, on a une carte et on peut commencer à voyager. Donc si un jour vous vous dites que vous aimeriez voyager mais que vous n'avez pas l'argent pour le faire, c'est que vous n'avez pas encore poussé la porte d'une bibliothèque. Parce qu'une fois que vous faites ça, ça y est, tous les voyages sont possibles. Et donc moi, j'ai commencé à voyager comme ça et je me suis dit, mais attends, là il faut chercher, il y a un truc qui a l'air formidable. Donc j'ai commencé avec ça, comme vous là, hop hop hop, là je vois des cahiers, des trousses. Et ben moi j'ai toujours un cahier et un stylo, toujours. Encore aujourd'hui, j'ai ça dans mon sac. Et donc, dès que quelque chose se passe ou que j'ai une idée, hop, je note. Et ça y est, je suis partie. Hein. Je peux être n'importe où. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire. J'étais dans le RERC, parce que j'habitais dans le 91, qui relie la banlieue à Paris et Paris à la banlieue. Et donc, je savais que je devais faire le voyage tous les jours. Et je me suis dit, mais attends, ça veut dire que c'est du temps, en fait. Donc là, moi, je peux faire des choses. Je peux prendre mon cahier, mon crayon et je peux y aller. Et donc j'ai commencé à écrire et je me suis dit, je vais tenter le coup, je sais pas si je vais réussir à devenir écrivain, parce qu'en plus tout le monde me disait, mais non, mais attends, mais toi d'où tu viens et tu dis que tu veux être écrivain, mais tu connais qui? C'était ça la question, c'est tu connais qui? Et moi je me suis dit, la seule personne que je connais, c'est moi. Moi je sais que j'ai envie d'écrire, alors je tente le coup, je verrai bien. Donc j'ai commencé à écrire. Après, j'ai pris mes petites feuilles, je les ai envoyées par la poste à des gens que je ne connaissais pas. Hein. Mais j'ai regardé les maisons d'édition, je me suis dit, bah tiens, eux, ils font des livres, je vais leur envoyer, on ne sait jamais. Et en fait, ça, c'est la deuxième leçon. C'est que si vous avez envie de faire quelque chose, la vraie question, ce n'est pas tu connais qui, c'est t'as envie de quoi. Parce que moi, comme j'avais profondément envie d'essayer, en tout cas, j'ai fait ça. J'ai fait mes petites enveloppes, je les ai envoyées par la poste et on m'a répondu. Et donc, je suis devenue écrivain parce que j'ai cru en moi. Voilà, et c'est la seule chose valable, tout le reste, on ne sait pas, ça on sait. Donc quand vous avez envie d'essayer quelque chose, plutôt que de vous dire tout de suite que ça ne marchera pas, moi je propose que vous essayiez, parce que de toute façon, quand on essaye de faire quelque chose qu'on a très envie de faire, on apprend toujours quelque chose.
À quel âge avez-vous écrit votre premier livre ?
78 ans. C'est tout ?
Alors, moi, le premier livre que j'ai écrit, j'avais quel âge ? Je devais avoir 25 ans. Et en fait, je m'étais dit, parce que je me suis dit, j'abandonnerai pas aussi vite, hein. Donc je vais écrire tous les un livre par an pendant 3 ans. Et si au bout de 3 ans, j'ai que des réponses négatives et on me dit « Non, Tania, tu arrêtes, on t'en supplie, c'est trop horrible ce que t'écris », bon, j'aurais essayé au moins. D'accord ? Donc j'écris le premier livre. J'envoie par la poste. J'ai quelques réponses intéressantes où on me dit « Ah, faudrait peut-être travailler un peu ça, tout ça ». Mais comme de toute façon, moi j'ai décidé que j'écrivais un livre par an, je continue. Et le deuxième, je tiens quand même compte de ce qu'on m'a dit, des envois qu'on m'a fait. Je me dis, ah oui, ils ont peut-être pas tort, je peux essayer comme ça. Et donc, en fait, c'est devenu mon premier livre. Et souvent, le premier livre des gens, c'est souvent leur deuxième ou leur troisième. C'est rarement le premier. Donc, du coup, j'ai sorti mon premier livre, j'avais 28 ans. Voilà.
Est-ce difficile d'écrire son premier livre ?
Pour moi, ça a été très facile. Parce que lorsque l'éditrice qui m'a contactée, Grasset, j'étais contente que Grasset me sollicite parce que mes grands-parents avaient été édités chez Grasset. C'est bête, mais ça me faisait plaisir. Et je lui dis, j'ai pas le temps d'écrire. Alors elle était étonnée qu'une vieille dame n'ait pas le temps d'écrire. Mais j'ai dit, non, je vous assure, je suis très très occupée, j'ai pas le temps. Alors elle me dit, ben, si vous voulez, je vais vous présenter une romancière. Et elle m'envoie un livre de Tania qui s'appelle Noir ou Tania. Ressuscite, si j'ose dire, la vérité sur la première femme noire qui, en 1955, en Alabama, ne s'est pas levée dans le bus, alors que tout le monde connaît Rosa Parks parce qu'elle a été une icône pour le mouvement, parce que cette jeune femme, Claudette Colvin, elle a osé aimer un blanc, en plus marié, en plus lui faire des enfants. Bref, elle ne pouvait pas faire icône et on l'a complètement mis de côté. Alors j'ai lu ce livre de Tania et j'ai vu qu'elle avait une telle plume que tout de suite j'ai eu envie de la rencontrer. Et alors on s'est rencontrés. Et puis finalement on s'est dit, ben, on va travailler ensemble. Et Tania m'avait dit, tu verras à la fin, quand je te présenterai un manuscrit, tu n'auras plus qu'à ajouter ou retrancher, ça ira vite. Et j'ai quasiment rien eu à faire parce que Tania, elle a été tellement fidèle à nos enregistrements que quasiment, elle a fait tout le boulot. Voilà. Donc ça a été très facile pour moi.
Et pour moi, en fait, non, ça n'a pas été compliqué parce que je m'étais dit, j'essaye de raconter une histoire. Ce que j'ai dans ma tête, j'essaye. Je le fais avec ce que je suis. Donc la vraie difficulté en fait quand on veut être écrivain, ou d'ailleurs ça marche pour tous les arts, hein, quand on veut être peintre, quand on veut être acteur, et puis je dirais même d'ailleurs pour tous les métiers, c'est-à-dire si on a en tête quelqu'un qu'on trouve formidable, qui fait ce métier, souvent on se dit bah, je peux pas le faire, il est formidable, et on se compare, et si on se compare, alors là on est cuit. Parce que pour faire sereinement ce qu'on veut faire, quoi que ce soit, il faut toujours se dire bah, je vais le faire avec ce que je suis, alors moi je suis ni formidable ni nulle. Je suis entre les deux, voilà. Et c'est parce que je suis ni formidable ni nulle que je peux m'autoriser à me dire, bah écoute, le truc que je ferai, il sera ni formidable ni nul, mais ce sera mon truc. Et c'est ça qui est important. Et donc moi, je me suis dit, je suis mon idée, on va voir. Je vais essayer de raconter cette histoire, là je vais y mettre des choses qui m'intéressent moi, qui me font rire, puis peut-être ça parlera à d'autres gens, mais au moins déjà ça m'aura parlé à moi, ce sera déjà pas mal.
Combien de livres avez-vous écrit ? Quel est votre préféré et pourquoi ?
Alors, je n'ai pas écrit, sauf avec Tania. Mon livre préféré, comme j'adore énormément d'auteurs, c'est très difficile, mais si on m'enfermait sur une île déserte, peut-être que je prendrais des essais de Montaigne.
Alors, moi, alors, attends, quelle était la question déjà ? Combien de livres ? Alors, j'ai écrit 8 livres. Mon livre préféré, alors je ne sais pas quelle est ta question, si c'est mon livre préféré dans ceux que j'ai écrits ou c'est tous les livres qui existent.
C'est dans ceux que vous avez
écrits. Dans ceux que j'ai écrits. Bah écoute, moi j'aurais tendance à dire que c'est le dernier, parce que il a une particularité, c'est que la personne avec laquelle je l'ai écrite, elle me propose un voyage, tu vois, parce qu'il y a Daniel, et ben moi je me retrouve ici, J'aurais pas prévu une chose pareille. Puis parce qu'il y a Daniel, on commence à circuler dans des endroits incroyables. On rencontre des gens aussi assez incroyables. Donc moi, je trouve que les livres, ça sert aussi à ça. Ça sert à la fois à me faire plaisir quand je les écris, mais ça sert aussi au moment où ils sortent, à ce qu'il se passe des choses avec ces livres. Et en l'occurrence, avec celui-là, il se passe vraiment des choses. Il y a vraiment, on discute, il y a des gens qui viennent nous voir, qui ont des propositions, des questions. Il y a une énergie autour de ce livre, puisque c'est un livre qui dit que c'est pas mal de faire des choses, et que dès qu'on fait des choses, et ben alors ça y est, on est vraiment en vie, et que tant qu'on fait rien, qu'on est là sur soi-même, bon, il se passe rien, il se passe la moitié de ce qui pourrait se passer si on était avec des gens, et c'est vrai. Donc celui-là me plaît bien pour ça.
Comment avez-vous réussi à le faire publier?
Alors ça a été très très facile, puisque j'étais sollicitée. Donc l'éditeur me disait, est-ce que vous voulez bien pour moi m'écrire un livre? Alors quand le livre il a été écrit, forcément, il a été publié sans problème.
Oui, là c'est la situation luxe, là, ouais. Par rapport à ce dont on parlait avant, qui est le moment où on n'a pas d'éditeur et où on cherche un éditeur. Mais il y a aussi le moment, là, comme ça a eu lieu, où en fait un éditeur a envie de faire un livre. Et dans ce cas-là, alors là, on n'a rien à faire, on est les princesses, quoi. Donc ça, c'est pas mal.
Avez-vous déjà gagné un prix littéraire?
Alors là, c'est le moment où je me vante énormément, parce que j'en ai gagné deux. Ouais.
Voilà.
Alors là, c'était beau. Merci. Donc j'en ai gagné un pour un roman. Et puis j'en ai gagné un justement pour le livre dont parlait Daniel qui s'appelle Noir. Et en fait, c'est le prix qui me touche le plus parce que comme l'histoire de Noir, c'est l'histoire d'une petite... Je dirais pas petite fille parce qu'elle est un peu plus âgée que vous, mais elle est quand même pas si vieille. Elle a 15 ans. Et donc, c'est quelqu'un qui a été beaucoup oublié, qui a été aussi assez maltraité. Et donc, je trouvais ça très joli qu'on lui donne un prix, surtout que c'est le prix d'une femme qui est très importante pour nous tous, qui s'appelle Simone Veil, et à laquelle nous devons beaucoup, et qui est une femme pour qui les femmes, c'est très important. Et donc, je trouvais ça très joli que ce soit ce prix-là, qui s'appelle le prix Simone Veil, qui soit donné pour ce livre-là, et qu'il y ait ce petit bandeau. Je ne sais pas si vous avez vu autour des livres, hein, quand il y a un prix, il y a un bandeau. Donc, c'est comme si elle mettait ses bras autour de cette petite fille, et j'aimais beaucoup cette idée-là.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Reportage dans mon cartable maintenant. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Cartable et tout de suite, nous vous proposons la deuxième partie de l'interview de Tania de Montaigne et de Daniel Mérian. Bonne écoute à tous.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Cartable.
Aujourd'hui, dans Radio Cartable, nous avons la chance,
l'honneur,
le privilège
de recevoir deux invités mystères.
Mais qui ça peut bien être?
Eh bien, il s'agit de Tania de Montaigne et Daniel Mérian.
Ouais. Tania de Montaigne est écrivaine et journaliste.
Et Daniel Mérian est avocate à la retraite.
Souvenez-vous, Daniel Mérian,
c'est cette super mamie qui s'était exprimée au micro de PFM TV
au lendemain des attentats du 13 novembre. Elle a porté une rose devant le Bataclan et a délivré à ce moment-là
un message de paix et d'amour
au monde entier.
Quel est le lien entre Tania de Montaigne et vous? Comment vous êtes-vous rencontrés?
C'est l'éditrice qui nous a fait nous rencontrer. Mais ce qui a été formidable, c'est qu'on ne se connaissait absolument pas. Comme vous voyez, nous sommes parfaitement différentes. On n'a pas du tout le même âge. On n'a pas la même couleur. On n'a pas eu du tout la même éducation. Tout diffère, sauf qu'on a les mêmes valeurs. Et comme on a discuté, on s'est trouvé sympa. Et donc, on a travaillé ensemble. Et maintenant, nous sommes amis Et pour moi, c'est très important parce que les amitiés intergénérationnelles, c'est absolument superbe. Et quand j'ai des amis beaucoup plus jeunes que moi, je suis infiniment heureuse.
Et moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que effectivement, ce qui nous a unis au départ, c'est la volonté de quelqu'un d'autre. Mais ce qui a fait que nous avons fait ce livre et que nous faisons ce chemin, c'est notre affection mutuelle. Donc ça, c'est quand même un sacré cadeau.
Pourquoi avoir choisi un titre anonyme noir pour relater l'histoire de Claudette Colvin, l'héroïne de votre livre ?
Là, on sent la question pointue parce que on s'est posé la question en fait du titre, qu'est-ce qu'on allait mettre en titre ? Et il y avait deux choses qui m'importaient dans le livre, c'était évidemment de remettre en lumière Claudette Colvin, mais c'était aussi de raconter que cette jeune fille-là, elle avait fait un truc qui est très important. Et je compte sur vous pour passer votre vie à le faire parce que c'est vous maintenant qui allez devoir faire le boulot, enfin aussi. Et elle disait, cette petite fille, vous croyez que quand vous avez dit ma couleur, vous avez tout dit de moi. Et moi, je vous dis qu'en fait, je ne suis pas une couleur. Non. Je suis une citoyenne américaine et donc quand je prends le bus, j'ai le droit de rester assise. Voilà. Et le fait qu'elle ait dit ça, fortement par son silence, puisqu'en fait c'est juste quelqu'un qui ne se lève pas dans un bus. Hein. Elle crie pas, elle fait pas, c'est pas une... Elle a rien fait de spectaculaire avant, c'est une petite fille comme vous pourriez l'être, qui va à l'école, qui obéit à ses parents, qui est gentille. Hein, mais quand elle dit ça, elle dit ce que nous devons toujours avoir en tête et ce que vous devez avoir en tête. Parce que dès que quelqu'un essaiera de vous enfermer dans votre sexe, en disant « bah oui, mais toi t'es une fille, je sais très bien, les filles elles font ça et pas autre chose ». Ou quand quelqu'un vous dira « bah oui, mais toi t'es noire, bah les noirs ils font ça et pas autre chose ». Ou alors « bah toi t'es juif, les juifs ils font ça, pas autre chose, les musulmans ils font ça et pas autre chose ». Vous l'entendez ça ? Bon, eh bien quand quelqu'un vous dira ça, vous devez toujours vous souvenir que parce que vous êtes un être humain, vous ne pouvez pas être résumé ni à votre sexe, ni à votre couleur, ni à votre religion. Vous êtes sans arrêt autre chose que ce que les gens croient. Vous êtes très multiple, très compliqué. Et moi, si vous fermez les yeux et que je vous décris quelqu'un de cette classe, et si je dis bah c'est un noir, normalement vous allez me dire je peux pas dire qui c'est moi. Si tu me dis pas plus, faut que tu me dises c'est un noir. Ça veut dire quoi ? Petit, grand, puis noir. Qu'est-ce que ça veut dire noir ? Marron, caramel. Voilà. Si je vous dis c'est un musulman, vous allez me dire bah et alors moi je sais pas qui c'est, je peux pas te dessiner. Et puis après si je vous dis pas comment il est, s'il est grand petit, quelle est la couleur de ses yeux, vous savez pas, vous pouvez pas le dessiner. Donc c'est ça que vous devez toujours avoir en tête, c'est que personne ne peut vous arrêter à ce qu'on croit qu'on voit. Voilà. C'est pas les lunettes, c'est pas la couleur des cheveux, c'est pas la religion, c'est pas le sexe, c'est rien de tout ça. C'est vous. Vous êtes très singulier et donc vous devez toujours rappeler aux gens que vous l'êtes. Même si ça les arrange pas.
Pourquoi voulez-vous devenir journaliste ?
Je suis fille et petite fille de journaliste, donc j'ai beaucoup d'estime pour ce magnifique métier, mais je n'ai jamais voulu être journaliste puisque je voulais être avocate.
Depuis tout le temps ?
Oui.
Et moi, en fait, c'est le hasard. C'est-à-dire qu'avant que je me dise « Bon, maintenant, je vais essayer d'être écrivain », en fait, moi, je me disais « Bah tiens, justement, puisque les gens croient tout le temps qu'ils savent qui je suis, j'aimerais bien faire un travail où on pourrait expliquer que les gens sont autre chose, autrement, différent. Donc, je me suis dit, faudrait que je travaille peut-être à essayer. Moi, je vivais dans une cité, et puis je trouvais que les bâtiments étaient bizarrement fichus. De temps en temps, on mettait un coup de peinture et tout. Je trouvais ça bizarre. Bon, je me suis dit, faudrait réfléchir à comment est-ce que les gens pourraient vivre ensemble et que ce soit différent. Donc, j'ai fait des études de sciences politiques. Et puis après, comme moi, j'avais pas de sous, il fallait que je travaille. Donc, je travaillais pendant que je faisais mes études. Et puis, à un moment, il y a une copine qui m'a dit « Dis donc, je crois qu'il y a j'ai vu passer une petite annonce pour un travail pour une chaîne de télé qui s'appelle Canal J. » Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Et donc, elle me dit « Je crois qu'ils cherchent des gens, des journalistes. » Bon, alors moi, j'étais pas journaliste. Mais elle me dit « Écoute, va, on sait jamais. » Donc, je vais là-bas. Je vois une dame à qui je dis que je suis pas journaliste. Mais... elle me dit, mais moi, ça m'intéresse quand même votre parcours parce que, en fait, il se trouve que depuis des années, je travaillais dans un centre social. Je faisais de l'aide aux devoirs. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et elle me dit, je sais pas, comme c'est une chaîne pour les enfants, peut-être qu'il y a un truc intéressant là, dans ce que vous avez fait. Et donc, j'ai fait le casting. Et en fait, ils m'ont dit, ah bah, vous êtes embauchée. Ah bon ? Alors là, moi, j'avais pas du tout prévu ça, parce que je pensais peut-être travailler à l'Assemblée nationale. Peut-être être assistant parlementaire. Là, on en parle en ce moment, on entend parler de ça. Mais moi, je voulais le faire pas de façon fictive, je voulais que ce soit un vrai métier. Donc voilà, et pour faire assistant parlementaire, bah, y avait des concours et tout. Donc je me disais, bah, tiens, je peux essayer ça, ça peut être pas mal. Et puis en fait, je n'ai pas eu le temps parce que je suis devenue journaliste. Ce n'était pas prévu, mais ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais continuer là-dedans.
Pour quel média avez-vous travaillé ?
Alors, j'ai travaillé donc, pour Canal J, ça c'était la première chaîne où j'étais. Puis après, Canal Plus m'a appelé. Ah, j'ai dit bon, tiens, on va essayer. Et puis après, j'ai dit, ah non, ça suffit, là, moi ça ne m'intéresse pas. Mais France 2 m'a appelé, j'ai dit, ah bon, bah, tiens, on peut regarder. Puis après, je me suis arrêtée, là c'est là que j'ai dit, bon, maintenant on va écrire, c'est ça le vrai truc intéressant. Et ensuite, finalement, j'ai sélectionné en fait et j'ai commencé à travailler pour des médias dans mon domaine, c'est-à-dire la littérature. Je me suis dit, bah, il faut que les deux maintenant soient liés. Et donc après, bah, alors c'est selon les émissions, c'était les émissions qui disaient plus que la chaîne en fait, c'est est-ce que ça m'intéressait ou pas. Donc bah, y a France 3, Paris Première, de nouveau Canal+. Après c'était vraiment en fonction. Puis France Inter, ça c'est la partie radio, voilà, où j'ai travaillé aussi.
Pouvez-vous nous parler de cette émission que vous avez animée sur Canal J ?
Alors, c'est une émission qui s'appelait Cajou, qui était tous les soirs de 18h à 19h30, qui était en direct. Et donc l'idée c'était qu'on parlait, donc on avait des sujets. Alors moi j'avais un truc, ça c'était terrible, à chaque fois j'avais des suées comme ça. Bon, parce qu'on m'avait dit, oui toi il faudrait que t'aies la rubrique bricolage. Bon, alors c'était drôle quand on me connaît parce que... Mais je m'étais dit, bon, alors si je fais du bricolage, comme c'était pour des enfants de votre âge, je me suis dit, il faut que vous puissiez, quand vous me regardez faire des choses, il faut que vous puissiez les faire tout seul. Donc il faut que ce soit pas dangereux. Et il faut que ce soit marrant à faire. Puis ensuite, dans l'émission, on avait aussi des invités. Il y avait aussi des enfants qui appelaient. Il y avait des jeux. Donc hop, fallait deviner des trucs. Donc c'était une émission très, très vivante, très marrante. Beaucoup de rigolades. Beaucoup, beaucoup. C'était vraiment extraordinaire.
Tania de Montaigne, vous êtes aussi interprète. Pouvez-vous nous parler de votre goût pour la chanson ?
Ouais, dis donc, là, ça bosse, hein. Là, on voit qu'il y a de l'investigation. Là. Alors, parler de mon goût pour la chanson. Alors moi, j'ai toujours fait de la musique, mais c'est pareil, à un moment, moi, j'ai pas appris le solfège ni rien, mais quelle était ma chance ? C'est que quand j'avais 12 ans, il y a un magasin de musique qui était près de chez moi qui a fermé, et donc il faisait des soldes. Ah, et ma mère, elle n'avait pas beaucoup de sous, mais là, comme c'était les soldes, en fait, on a regardé l'instrument qui coûtait le moins cher. C'était un saxophone. Et donc, elle m'a acheté le saxophone et une méthode où on pouvait se débrouiller tout seul. Alors, pour les voisins, très difficile. Je pense qu'il y a eu quelques mois, pas évident, parce que le saxophone, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. En fait, vous voyez, c'est un instrument comme ça, qui a une forme un peu comme une virgule, là. Pardon ? Comme dans les Simpsons, exactement. Et ouais. Et c'est un instrument qui n'est pas facile parce qu'en fait, c'est un faux ami. C'est-à-dire que quand on le voit, on croit que l'essentiel se passe au niveau de la bouche, de l'anche et du bec. Alors qu'en fait, pour souffler dans un saxophone, ce n'est pas les joues, c'est le ventre. Si vous voulez réussir à souffler dans un saxophone, c'est au niveau de votre ventre que vous devez aller chercher l'air. Parce que sinon, si vous êtes ici dans les joues, pff, il ne se passe rien. Donc il faut que ce soit un souffle continu. Et si vous voulez essayer pour vous entraîner avant d'avoir le saxophone, vous prenez une paille, vous la mettez entre vos lèvres et il faut que l'air qui sorte, vous mettez votre doigt pour sentir l'air, il faut qu'il soit continu. Voilà. Quand vous savez faire ça, normalement vous êtes prêt pour le saxophone. Hein. Ça je vous le dis tout de suite. Mais donc, le moment où moi j'arrive à comprendre ça, parce que personne ne m'explique, donc il faut que j'écoute et que je me dise je vais essayer de trouver ça. Et puis en même temps, il faut que j'apprenne les notes, parce que je connais rien du tout. Mais c'était super, parce que j'ai fait alors tous les jours, hein, donc vraiment les voisins, tous les jours le bruit, comme un éléphant mort au début. Ça fait des trucs comme ça. Et puis d'un coup, le son sort. Et ça y est, parce qu'en fait, le saxophone, c'est un instrument très intéressant, puisque aucun saxophoniste n'a le même son. Quand un saxophoniste vous touche, c'est parce que c'est sa voix, c'est comme s'il chantait. Et donc, moi, j'ai commencé, j'étais là avec ce saxophone et tout, et un jour, oh, là, j'ai trouvé ma voix. Alors comme j'étais pas du tout modeste, hein, je me souviens que je suis partie avec mon saxophone, il y avait quelqu'un qui faisait un anniversaire, j'ai dit alors là il faut que tout le monde profite de ma grande découverte, donc j'étais avec mon saxophone et là j'étais à fond. Comme j'étais une petite fille assez timide, là il y avait quelque chose avec cet instrument aussi, je pouvais affirmer, c'était vraiment, j'ai trouvé ma voix. Et donc après je me suis dit mais quelle chance, et si vous avez l'occasion, mais quel que soit l'instrument, ça, c'est un vrai truc que vous, c'est un vrai cadeau que vous vous faites. Quel que soit l'instrument, à un moment vous allez apprendre la flûte et vous allez trouver que c'est atroce, le son, tout ça. Mais pensez toujours que c'est un instrument de musique et que vous faites de la musique. Et peut-être c'est pas l'instrument de vos rêves, mais c'est un instrument, quoi.
Daniel Merian, qui vous a donné envie de devenir avocat et à quel âge ?
Je suis née avant la guerre de 40. À la fin de la guerre, en 1945, j'avais 7 ans. Et mon père, qui a eu la chance de ne pas être fait prisonnier à la bataille de Dunkerque, il a terminé la guerre comme correspondant de guerre dans l'armée canadienne et il a rapporté des camps de concentration les photos qui ont fait le tour du monde. Il a commis l'erreur de dire devant nous à ma mère: il ne faut pas que les enfants voient ça, et je ne savais absolument pas de quoi il parlait. Et comme il avait dit ça, dès qu'il a eu le dos tourné, c'est pas beau ce que j'ai fait, j'ai fouillé son bureau jusqu'à ce que je trouve l'enveloppe que j'avais vue en ne sachant pas ce qu'il y avait dedans. Et donc j'avais 7 ans quand j'ai découvert les horreurs des camps de concentration. Et ça a été un choc absolument épouvantable pour moi de découvrir ce que l'homme peut faire à l'homme. Et donc j'ai décidé que je consacrerais ma vie à aimer les autres, à défendre ceux qui sont sans voix, et c'est comme ça que je suis devenue avocat.
Qui avez-vous défendu et pourquoi ?
Alors je ne vais pas vous dire qui j'ai défendu parce que je suis tenue jusqu'à la fin des temps par le secret professionnel, mais je vais vous dire que j'ai défendu les gens qui se sont adressés à moi, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, que j'ai défendu des personnes particulières. Je n'ai pas défendu des sociétés, je n'ai pas défendu des entreprises. J'ai été très très rapidement, spécialisée par ma clientèle dans le divorce.
Comment êtes-vous devenue célèbre ?
Alors je suis devenue célèbre sans l'avoir voulu. J'ai porté des fleurs au Bataclan. Et quand je me relevais d'avoir disposé des fleurs et d'avoir vu, ce qui m'a fait énormément plaisir, plusieurs exemplaires du livre de Hemingway, Paris est une fête, il y a eu là des journalistes qui m'ont interpellée en me disant: madame, est-ce que vous accepteriez de nous dire pourquoi vous avez apporté des fleurs ? Alors moi, quand on me donne la parole, je la prends. J'ai donc fait une déclaration de 28 secondes, soit une demi-minute, qui a bien plu et qui a fait qu'elle a été retransmise sur toutes les ondes de toute la planète. Et c'est ainsi que je suis devenue célèbre.
Maintenant que vous êtes à la retraite, continuez-vous à vous engager dans vos causes ?
Oui, j'ai changé de métier. Je ne me sens pas du tout à la retraite. J'ai exercé le plus beau métier du monde, vous ne ferez jamais dire autre chose, et j'avais un confrère qui était président d'une association qui s'appelle Prisonniers sans frontières. Cette association a pour objet d'humaniser la vie dans les prisons d'Afrique de l'Ouest, et j'étais membre de cette association. Et ce confrère, il me tannait en me disant: prends ta retraite, démissionne, viens travailler avec nous. Alors j'ai résisté, comme j'aimais beaucoup mon métier. J'ai résisté jusqu'à l'âge de 68 ans. Et puis à 68 ans, j'ai démissionné. Je suis devenue vice-présidente de Prisonniers sans frontières. J'ai continué mes activités avec d'autres associations, comme l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, où je milite depuis 1975, vous voyez, c'est pas d'hier. Et donc, moi je travaille 10 heures par jour et ça me va très bien pour mes associations et pour défendre les droits humains. La dernière association pour laquelle je me démène beaucoup, c'est SOS Africaine en danger. Donc je suis très attachée à ces jeunes femmes parce que j'estime qu'elles ont un courage inouï. Il faut un courage inouï pour prendre l'avion, tout lâcher, parce que la vie que l'on subit avec le mariage forcé et l'excision, c'est un enfer. Et l'une d'elles m'a beaucoup émue parce que je leur demandais toujours de me raconter leur histoire, puisque nous avons écrit un fascicule de leurs témoignages. Et souvent, ce sont les employés des centres d'accueil des demandeurs d'asile qui les écoutaient et qui les enregistraient et qui m'envoyaient leur témoignage. Et je leur disais toujours, il faut dire aussi, puisque vous allez être lus en France, il faut dire aussi vos difficultés, parce que la France, pour vous, c'est la terre d'accueil, mais on commence par coucher dans la rue, les difficultés sont très grandes. Donc dites aussi vos difficultés, parce que les Français n'ont aucune idée de ce que c'est que l'excision, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que d'être demandeur d'asile. Il faut dire. Et une fois, une jeune fille me rajoute, elle avait 18 ans. J'ai beaucoup de mal dans le métro parce que je ne sais pas lire. Alors avoir 18 ans, pas savoir lire et prendre l'avion vers l'inconnu, c'est-à-dire que pour ces jeunes femmes, c'était une terre de liberté, la France, et ça, c'est pour elles une terre de liberté. Elle s'imaginait d'ailleurs que tout était rose pour les femmes en France. Alors, vu mon grand âge, je leur ai raconté tous les combats du XXe siècle pour parvenir à l'égalité qui est réalisée en droit dans les textes et absolument pas dans la vie, comme vous savez. Vous allez probablement, vous aussi, être une génération où sans doute vous gagnerez moins que les filles, que les garçons dans vos entreprises. Et j'ai beaucoup d'admiration.
Sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux qui nous réserve, comme d'habitude, son cocktail musical. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un que vous connaissez bien à Radio Libertaire, c'est Louise Michel, une biographie qui vient de sortir aux éditions Perrin. C'est une biographie qui est signée par Marie-Hélène Bellac. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Valère-Marie.
Donc c'est vrai, on s'était vu autour de Agatha Christie.
Oui.
On avait fait une belle rencontre, une belle émission autour d'Agatha Christie, et vous menez toujours l'enquête. D'ailleurs, je vois que vous n'arrêtez pas de mener l'enquête. Et là, Louise Michel, j'avoue que j'ai appris plein de choses. Vraiment. Et puis alors, je tiens à signaler, alors ça c'est très important pour nos auditeurs aussi, il y a un autre livre parallèlement qui vient de paraître en format de poche, sur lequel nous reviendrons peut-être au cours d'une autre émission, mais faut vraiment faire une émission entière, c'est La peur du peuple, histoire de la Deuxième République, 1848-1852. C'était donc paru chez Perrin en 2022 et ça sort dans la collection Tempus. Collection de poches,
oui,
de Perrin.
De poche.
Et c'est vrai
à
que c'est
10 euros.
Voilà, je dis ça parce que ça peut être complémentaire aussi, je pense, histoire.
Oui, de la période, oui, c'est ce 19e siècle qui a vu s'épanouir des socialismes. Et Louise Michel, d'ailleurs, s'inscrit dans ce mouvement. Donc c'est vrai, ça permet de comprendre des choses sur sa nature.
Alors, Louise Michel, ça c'est Ah voilà, vous commencez comme ça, Marie-Hélène Bellac. La Vierge Rouge, la pétroleuse, la nymphe du pétrole, la déesse du pétrole, la sanglante cabotine, la louve sanguinaire, la neuvième égérie du Parti révolutionnaire, la fée de l'anarchie, la femme héroïque, l'héroïque citoyenne, la Jeanne d'Arc du drapeau noir, etc. etc. Et c'est vrai que vous dites, Louise Michel est un cas unique, personnage de l'histoire de France. Aucun personnage de l'histoire ne s'est vu attribuer autant de surnoms de son vivant. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'elle en a eu ?
Oui, oui, oui. Alors, à la fois des surnoms élogieux, oui, comme la grande citoyenne, c'est comme ça qu'on l'a appelée quand elle est revenue de Nouvelle-Calédonie en 1880, et puis au contraire des surnoms surnoms péjoratifs comme la pétroleuse ou comme la Vierge Rouge, ou comme la nymphe du pétrole, qui étaient donnés par tous ceux qui dénonçaient sa violence et l'anarchisme.
On l'a dit aussi la Madone des anarchistes.
Oui.
Et je crois que c'est Alfred Le Petit qui disait « Louise Michel est une femme dans le genre Jeanne d'Arc, de Jeanne d'Arc et de Charlotte Corday ». Bon,
oui,
bref.
Oui, oui, on l'a comparée à Jeanne d'Arc. D'ailleurs, elle est née à Vroncourt, qui n'est pas très loin de Don Rémy. Donc, il y a eu aussi cette analogie de son vivant.
Voilà. Alors, est-ce que c'est pour ça, finalement, que vu tous les surnoms qu'on a donnés à Louise Michel, que vous avez choisi un titre minimaliste,
oui,
Louise
oui,
Michel ?
Oui, exactement. Parce que je me suis dit que si je mettais... Enfin, si j'aurais pu mettre anarchiste, hein, c'est vrai après. Mais... j'aurais eu tendance à être pour ou contre, et c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'elle soit cataloguée, d'autant que c'est une personnalité extrêmement riche. Et voilà, donc ce titre, effectivement, minimaliste.
Minimaliste, et c'est vrai que voilà. Alors, vous écrivez, pour la plupart d'entre nous, Louise Michel est un nom, mais elle n'est pas qu'un nom. Le temps est venu d'une réappropriation qui est l'objet de ce livre.
Mmh.
Comment redécouvrir Louise Michel bien longtemps après ?
Alors, je pense que... Enfin, j'ai fait ce que j'aime faire à chaque fois, c'est-à-dire partir déjà dans les textes de l'auteur, puisqu'elle est une femme politique, mais aussi une écrivaine. Elle a beaucoup écrit, rien qu'entre 1881, enfin les années qui ont suivi son retour de Nouvelle-Calédonie, elle a écrit autant d'œuvres, une vingtaine d'œuvres aussi. Hein, donc et puis beaucoup de textes qui n'ont jamais été publiés, ou qui pour certains commencent à l'être, je pense à La Chasse aux loups. Je suis partie dans les archives, dans ce qu'elle avait écrit qui était publié, mais aussi dans sa correspondance. Il y a beaucoup d'archives.